Bonsoir mes frères et sœurs. Alors c'est vrai ce que vous venez de chanter?
Est-ce que c'est vrai? Vous l'avez chanté?
Et faire ta volonté, pas la mienne,
la tienne Seigneur,
sans murmurer.
Eh bien si vous êtes d'accord, eh bien, on va lire ensemble ce premier texte dans l'épître de Paul aux Corinthiens, où le Seigneur parle justement de ce premier problème qui est les disputes, la rivalité. Alors lisons, on va faire une longue lecture, elle est nécessaire pour que nous apprenions à comprendre comment Dieu s'y prend pour régler un problème, comment il est obligé d'aborder plusieurs aspects pour que nous comprenions la solution. Beaucoup de gens n'arrivent pas à régler des problèmes parce qu'ils ne comprennent pas qu'un problème, parfois, il y a plusieurs solutions. La lecture est longue, mais c'est bien, c'est très bien. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé à mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du reste que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise et celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma prédication, et ma parole, et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi s'affondait non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Et il commence à régler le problème, enfin il finit de régler le problème. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par lesquels des moyens vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même, et quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi, est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec la lecture? J'ai fait cette lecture en entier, par rapport à tout ce problème de division dans l'église de Corinthe, parce que c'est nécessaire. Vous comprenez bien que je n'ai pas fait une longue lecture, et d'ailleurs, si on ne lisait que la Bible dans une prédication, est-ce que ça vous gênerait? Est-ce que ça vous gênerait si un jour, je prêchais que lire 10 textes bibliques, 10 chapitres, 20 chapitres, est-ce que ça vous gênerait? En tous les cas, c'est sûr de ne pas faire d'erreur. Mes frères et sœurs, on est en train d'aborder comment devenir un véritable chrétien. Regardez les dangers des querelles entre frères. Alors la lecture va être beaucoup plus courte, mais regardez quand même avec moi dans Proverbe 18-19. Parce que ces problèmes, Dieu a voulu qu'on les aborde. Et vous le relirez et vous verrez tout ce que l'apôtre Paul dit pour régler un problème. Un problème de jalousie ou de rivalité. Et on ne règle pas les problèmes comme ça, juste en un clin d'œil, il faut être sérieux. Proverbe 18, verset 19, pour vous expliquer ce qui se passe dans une église lorsqu'il y a de la jalousie et des rivalités, ou dans un couple, ou dans une famille, ou dans un groupe de responsables, etc. Proverbe 18, verset 19, « Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte. » Et regardez bien la suite. Et leurs querelles, qu'est-ce qu'on sait les querelles? Sont comme les verrous d'un palais. Et croyez-moi, ce n'est pas une bonne image. les verrous, c'est-à-dire que les portes sont fermées, qu'il n'y a pas de possibilité de communiquer. Voyez un petit peu les dangers des querelles. Et si vous êtes querelleur, je vous plains. Parce que vous avez des verrous, vous ne pouvez pas communiquer. Il y a des gens qui sont continuellement en vrac, continuellement en conflit, parce qu'ils n'ont pas compris la parole de Dieu. L'apôtre Paul, dans sa sagesse infinie, reçue de Dieu, va exprimer plusieurs aspects. Et franchement, mes frères et sœurs, si vous avez ce problème de rivalité, de jalousie, écoutez bien ce que vous allez entendre. Écoutez bien, parce que je vous assure que c'est important. Il y a des chrétiens qui sont restés charnels parce qu'ils n'ont pas réglé ce problème. Ils ont dit, mais comme c'est... Ben, c'est pas grave d'être charnel. Est-ce que c'est grave d'être charnel? Tiens donc, une des solutions dans ce texte. Dans ce texte, les gens qui sont charnels, est-ce qu'ils sont sauvés? Dans ce texte. Oui. Ils sont sauvés. Vous avez vu. Vous l'avez vu avec moi. Les gens charnels, c'est le début de l'épître. Vous savez, moi j'ai appris une chose avec M. Olé. Pourtant, je vous dis, ça fait 32 ans que je suis pasteur. J'entame ma 33e année. J'ai appris quelque chose avec M. Olé. C'est pour ça que je vous encourage à étudier ce qu'il enseigne. C'est que pour comprendre la parole, il faut regarder tout le contexte. Voyez dans ce chapitre, il y a des gens qui se sont fait des gorges chaudes en disant « Mais de toute façon, c'est pas grave. Même si quelqu'un il est charnel, ça n'a pas l'air grave, puisque la personne, elle est sauvée. » Oui, puisqu'il est dit que il y a ceux qui bâtissent avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Ça, c'est des métaux précieux que l'on trouve en profondeur. Le foin, le chaume, la paille, il n'y a pas besoin de faire d'effort pour la chercher. C'est où le foin? C'est à la surface. Pour retrouver du foin, moi ce soir vous me dites allez me chercher un kilo de foin, ça sera vite trouvé. Allez me chercher. Si vous me dites allez me chercher un kilo d'or, ça risque de prendre un peu plus longtemps. Il y a des gens qui construisent avec des matériaux spirituels. L'or parle d'intégrité, l'argent parle de rédemption, etc. Les pierres précieuses parlent des dons spirituels, de la vie de l'esprit. Le foin, le chaume parlent des gens qui sont charnels. Alors là on voit les gens que si quelqu'un bâtit avec du foin, il perdra sa récompense. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il y a des gens qui disent, mais moi les récompenses, j'en ai pas, c'est pas grave, il s'agit que je sois sauvé. Est-ce que vous faites partie des gens qui fonctionnaient comme ça? Il y en a beaucoup qui le disent. Même il y en a qui, je pense, c'est de la fausse humilité. Moi, si j'ai pas de récompense, c'est pas grave. Moi, il s'agit que je sois avec Jésus. Ah, ça fait super spirituel. Non, je suis désolé, je pense que c'est bien d'avoir des récompenses. Dans ce texte-là, le fait d'être charnel ne nous fait pas peur par rapport au problème du salut. Mais si vous lisez la suite, plus on est charnel, plus on s'éloigne de Dieu. Vous êtes d'accord? Quelqu'un qui est charnel, il s'éloigne de Dieu. Quelqu'un qui est charnel, en s'éloignant de Dieu petit à petit, il perd la foi. Et plus il va perdre la foi, il va perdre le salut. Si on va un peu plus loin... C'est ça qui est important, mes frères et sœurs. Parce qu'il y a des gens qui ont utilisé des textes comme celui-ci, au détriment de l'ensemble, pour essayer de faire croire que quelqu'un qui était charnel, il ne perdait pas le salut. Mais regardez un peu plus loin. Un peu plus loin, il aborde d'autres problèmes, et ces chrétiens charnels, bien sûr, n'ayant pas réglé le problème de leur vie charnelle, deviennent de plus en plus charnels. Et l'apôtre Paul va plus loin. C'est pour ça que je vous ai dit de lire toute l'épître. Il y a dans l'épître principale, d'ailleurs cette épître elle a dû être lue en une fois, en deux fois, j'en sais rien, en trois fois, aux chrétiens de Corinthe, comme je vous l'ai lu tout à l'heure. Mais il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset. C'est tout un ensemble. Et regardez, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. C'est une continuité. C'est pour ça, mes frères et sœurs, lisez toute la parole de Dieu. Il y a déjà, ils ne lisent que les psaumes. Ça vous fait rire? Est-ce que vous savez que c'est vrai? Il y a déjà une lise qu'un chapitre, le livre du Lévitique, vous le lisez souvent en fait? Et pourtant c'est tout un livre sur la sainteté. C'est vrai qu'il est difficile à comprendre, soyons honnêtes. Il y a des livres, moi les livres, quand je me suis converti, les livres d'Ézéchiel, de Jérémie, d'Ésaïe, j'avais du mal. Mais quand même, quand on a quelques années de conversion, on devrait lire toute la parole de Dieu. Regardez, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez la progression qu'il y a ? Au début, quelqu'un peut dire, ah mais un chrétien charnel, il est sauvé. Oui, mais s'il se corrige. Et s'il dit, non, je ne veux pas être charnel. Le but de quoi ? Le but c'est quoi ? C'est de dire, mais Seigneur, je veux faire des progrès. Pourquoi on étudie la Bible ? Parce que vous aurez, dans un an, vous connaîtrez bien l'épître aux Corinthiens, vous aurez compris ci, vous aurez compris là. Non ! Dans un an d'ici, si Dieu nous prête vie, il faut qu'on puisse dire, je ressemble de plus en plus au Seigneur. Vous avez remarqué que dans ce chapitre, si vous lisez l'épître, vous allez voir que ça va loin. Oui, un chrétien peut perdre le salut. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, avant de lire tout un tas de bouquins, lisez la Bible. Lisez la Bible, afin que quand vous lirez un livre, vous disiez, ça c'est, il y a des gens qui croient n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. C'est grave ça. Alors vous avez vu tout ce qu'on a lu, ça indique ce qu'il faut comprendre pour ne plus être charnel, bien sûr, pour ne plus être dans la rivalité, dans la comparaison. Ah ben dans l'église, ah mais moi je préfère, qui c'est qui prêche dans l'église ? Ah il y a Monsieur Bordeneuve, ah moi je préfère Monsieur Bordeneuve. Ah non, moi je préfère Monsieur Olé. Ah moi je préfère Jonathan. Quand on en est là, mes frères et sœurs, c'est que c'est vraiment pas, c'est pas bon. Après, on peut avoir des affinités. Est-ce qu'on peut avoir des affinités ? Oui. Mais d'abord, il faut comprendre une chose. C'est qu'il y a des enseignements sur la sagesse. Est-ce qu'il y a beaucoup de sages, dit de ce texte ? Non, il n'y a pas beaucoup de sages. Il parle de ceux qui se confient dans la sagesse humaine. Il parle au chapitre 2 de ceux qui ont besoin de révélation. Qu'il y a toutes sortes de gens, toutes sortes de croyants. On y revient juste un peu. Il parle des chrétiens charnels, des chrétiens spirituels. Il parle de l'homme naturel. Comment on travaille ? Comment vous travaillez dans l'Église ? Il en parle, etc. Je n'ai pas l'intention de tout vous dire ce soir, mais de nous aider à réfléchir, mais comment je vais régler ce problème de jalousie ? Est-ce que la jalousie, ça peut tuer un couple ?
Oui.
Est-ce que ça peut tuer un frère dans une Église ? Vous avez vu ? Les querelles de frères sont les verrous d'un palais. Impossible d'entrer. Impossible de jouir de la bénédiction qu'il y a dans ce fameux palais. Impossible de profiter de l'abondance de la grâce. Pourquoi ? Parce que je suis un homme querelleur. Mes frères et sœurs, il ne faut pas avoir des querelles. On l'a vu dimanche dernier, mardi dernier, que Jésus, lui, il s'en remettait à celui qui juge. Oui ou non ? Voilà. Et vous vérifiez-le et vous verrez que c'est Dieu qui vous justifiera et qui vous défendra. Donc, j'aborde ces choses. Les Corinthiens avaient de sérieux problèmes et pourtant ils avaient tous les dons. Ils avaient tous les dons spirituels. Ils parlaient en langue, mais ils ne cherchaient pas à ressembler au Seigneur. Pourquoi nous sommes là ce soir ? Pourquoi nous sommes là ? Est-ce que vous voulez étudier la parole de Dieu ? Est-ce que c'est important d'étudier la parole de Dieu ? Oui. Mais on étudie la parole de Dieu pour être de bons théologiens ou on étudie la parole de Dieu pour ressembler au Seigneur ? Et voilà. Mais c'est bien sûr, vous connaissez, la réponse elle était facile. Mais est-ce que vraiment les gens qui me voient, les gens qui nous voient, peuvent dire « Mais ce gars, c'est sûr, cette fille, mais c'est sûr, c'est... quand je vois sa façon de parler, sa façon de réagir, sa façon de travailler, elle est spirituelle. » Parce que ça ne sert à rien de dire « Ah oui, elle connaît, nous avec ma femme, on avait une femme, dès qu'on était Albi, elle connaissait par cœur la parole, et elle avait un témoignage lamentable. Mais moi, au début, je croyais qu'elle était spirituelle. Parce que dès qu'un pasteur disait, mais où c'est écrit ça ? Elle se trompait ? Jamais. Et moi, j'étais la voir. Et on a été la voir. Et à force de discuter avec elle, on s'est rendu compte qu'elle avait un témoignage minable. Donc, ce n'est pas une question de connaissance, c'est une question de ressembler au Seigneur. Les Corinthiens avaient tous les dons. Ils parlaient en langue, ils avaient tous les dons spirituels, mais il n'avait pas compris que le plus important, c'est d'aimer. D'ailleurs, il va le dire. Si vous parlez les langues des anges et des hommes, ce serait bien. Vous aimeriez parler toutes les langues, les anges. Comment ils parlent, les anges ? Vous avez discuté avec un ange ? Non, moi non plus. Donc, ce n'est pas comment ils parlent. Mais on parlerait le langage des anges si on n'a pas l'amour. L'apôtre Paul, il est, c'est sévère. Je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Il va leur expliquer que c'est extraordinaire de parler en langue. Et il faut être rempli du Saint-Esprit. Mais à quoi ça sert d'avoir les dons si on n'a pas le fruit? Et c'est pour ça que bon, tout ce qu'on a lu, peut-être un peu, c'est un peu compliqué pour vous. Mais en vérité, l'apôtre Paul est en train de leur dire, voilà, il y a un problème dans l'Église, et il faut que vous fassiez attention à ne pas rechercher une certaine sagesse, parce que de toute façon, la sagesse, les Corinthiens, ça leur serait servi à rien. Sagesse, vous voyez, parmi les inconvertis, les Juifs, qu'est-ce qu'il dit des Juifs? Comment il parle des Juifs? Il dit, scandale pour les Juifs, la croix, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Est-ce que vous savez pourquoi c'est un scandale pour les Juifs, la croix? Parce que ils ne peuvent pas accepter le fait que le Christ, notre Seigneur, soit le Messie, parce qu'il a été pendu. Que dans le livre du Lévitique, justement, il est dit « Maudit soit celui qui est pendu au bois ». Est-ce que c'est écrit « Maudit soit quiconque est pendu sur un bois » Donc, le Christ, Jésus-Christ, il a été maudit. Vous êtes d'accord? Il a pas été maudit. Il a pris notre malédiction. Mais pour les Juifs, il est maudit. C'est pour ça qu'ils disent « Mais c'est un scandale. Jésus ne peut pas être le Christ. Le Christ, il fallait qu'il règne. Le Christ, il faut que ce soit un roi. » Et ils n'ont pas compris qu'avant que Jésus ne vienne comme roi, ce qui va bientôt arriver, il fallait qu'il vienne comme sauveur. Les Juifs, ils voulaient un super seigneur qui les débarrasse des Romains. Ils n'avaient pas compris que d'abord, il fallait qu'on soit débarrassé du péché. C'est ça le problème. C'est que les gens, ils veulent de la puissance politique. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont accepter facilement l'antéchrist lorsqu'il viendra. Parce qu'il vient venir comme un chef politique. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, Paul leur demande, on le voit plus loin, de grandir, de gloire en gloire. C'est un peu plus loin, dans la deuxième épître aux Corinthiens, il dit, mais je veux que vous soyez transformés en regard en Christ, vous serez transformés de gloire en gloire. Alors, la première chose que Dieu nous demande, par rapport à ces problèmes de rivalité, alors qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Verset 10. Il faut comprendre, mes frères et sœurs, c'est important l'Église. L'Église, ce n'est pas un club de croyants qui s'entendent bien et qui se font la bise le dimanche matin. L'Église, c'est une armée, c'est une maison de prière. Et Paul leur dit, écoutez-moi bien, je vous exhorte à tenir tous un même langage. Voilà une des premières solutions pour régler le problème des rivalités. Alors, est-ce qu'il faut être d'accord sur tout? Est-ce qu'on peut être d'accord sur tout? Alors voilà. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des opinions différentes? Oui, mais c'est ça l'Église. Parce qu'on n'est pas militarisé. On ne doit pas tous être habillés pareil, tous coiffés pareil, tous avoir la même tenue, etc. Ça, c'est contre la pensée de Dieu. Chaque individu est différent. D'ailleurs, je vous ai dit de méditer un chapitre. C'est le Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. S'il vous plaît, dans le cadre de cette étude, il faut que vous connaissiez ce chapitre. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est sérieux cette affaire. Romains chapitre 14, est-ce que vous connaissez ce chapitre? Est-ce que vous le connaissez bien? Méditez-le. Ça fait partie de ces chapitres clés qui nous apprennent à non seulement à respecter les opinions des autres, regardez ce qui est écrit. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Donc on peut avoir des opinions différentes, d'accord? Mais il faut avoir un même langage, il faut être d'accord sur les choses. Dernièrement, imaginez, il y a sept dispensations. La première, c'est la dispensation de... C'est quelle la première dispensation? La dispensation de l'innocence. Quand Adam et Ève ont été créés, comment ils étaient habillés? Ils étaient nus. D'accord? Ils étaient nus. Donc aujourd'hui, il y a une église à Paris où les chrétiens se rassemblent, ils se mettent tout nus dans l'église. Au nom de la première dispensation, au début, Dieu nous a créés dans cette tenue, donc on adore Dieu tout nu. Franchement, c'est grave. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La perversité. Vous me croyez? C'est la vérité. Quand Dieu nous demande de tenir le même langage, il faut que ce soit par rapport à la doctrine biblique. Pas par rapport aux opinions. Il y en a qui mangent que des légumes. Est-ce que c'est bien de manger que des légumes?
Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien d'être végétarien? Romains 14. Non, mais c'est important, mes frères et sœurs. Mais bien sûr, c'est bien d'être végétarien. C'est bien. Regardez bien. Tel croit, verset 2, tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange. Vous voyez, c'est pas grave. Mais on ne va pas se servir d'une dispensation pour justifier le fait que je sois ou que je ne sois pas végétarien. Ça n'a rien à voir avec une dispensation. Cela a à voir avec une conviction. Regardez d'ailleurs, les jours, après c'est par rapport aux jours, ça j'en ai déjà parlé. Verset 5, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. C'est quoi le plus important, le dimanche ou les jours de la semaine? Vous êtes sûr? Et si quelqu'un préfère le dimanche, est-ce qu'il a le droit de préférer le dimanche? Mais bien sûr, le problème c'est pas de faire une différence entre le dimanche et les jours de la semaine. Le vrai, vrai problème, c'est d'obéir tous les jours. C'est en cela qu'il faut être d'accord. Mais que quelqu'un, moi, le jour du Seigneur, je vous avoue que j'ai un petit faible. Je trouve que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour moi, tous les jours, c'est important. Mais quand même, le dimanche, moi, je trouve que c'est bien quand on se réunit le matin pour l'édification, l'après-midi pour l'évangélisation. C'est le jour du Seigneur. Oui ou non? Quand Paul dit « Je vous exhorte à être tous, à tenir un même langage », vous comprenez bien que ce n'est pas sur les opinions. Les opinions, ce n'est pas grave. Et c'est là qu'on voit la maturité des chrétiens. Quand je vois des chrétiens qui se chipotent, qui se disputent pour des opinions, ça vous montre combien ils sont encore charnels. C'est grave, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'on devrait, lire ces chapitres. Vous avez remarqué au verset 5, la fin du verset 5, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Voilà ce qu'un chrétien mieux. Il a une conviction. Bien sûr qu'il dépend de ce qu'enseigne le pasteur. Si c'est biblique, il faut qu'il sache. Mais il a une conviction. C'est dans son cœur. C'est pas là une fois, oui, ah oui, c'est important. Puis quelqu'un d'autre va prêcher autre chose. Ah, si tu le dis. Vous savez, il y a des gens qui écoutent les derniers venus. En politique, vous avez remarqué combien ils se battent pour parler en dernier. Parce que c'est le dernier qui parle, souvent, qui donne l'aval pour le vote. Mes frères et sœurs, il y a des choses sérieuses dans la Bible. Et quand Paul dit « Je vous exhorte à être pleinement d'accord », mes frères et sœurs, il faut que nous soyons d'accord. La maison de Dieu, est-ce qu'elle doit être une maison de prière? Oui, on devrait tous être d'accord. Ça ne se discute pas. Il y a des églises, ils annulent les réunions de prière. On doit faire en sorte que l'église soit une maison de prière. On doit être parfaitement d'accord. Qu'est-ce qu'il dit encore? Attendez, on y était. Qu'est-ce qu'il dit? Non seulement il dit parfaitement, d'accord? Tenir tous un même langage, alors ça ne veut pas dire qu'on a tous le même vocabulaire, mais ça veut dire qu'on a tous un langage spirituel, et à être parfaitement unis. Il y a des choses que l'on doit comprendre, on doit suivre, on ne doit pas suivre Paul, Pierre, Apollos, même, vous avez vu, ils réprimandent même ceux qui se valorisent que de Jésus seul. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors quelqu'un pourrait dire, mais moi, Monsieur Gauche, justement, vous m'avez dit de lire l'Épître en entier, c'est bien joli ça, Paul, et moi je suis de Pierre, et moi je suis de Céphas, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? 1 Corinthiens 11, verset 1er. Vous savez les détracteurs, vous avez déjà discuté avec des détracteurs de la Bible? Des gens qui se plaisent à essayer de nous prouver que la Bible n'est pas inspirée. Avec un truc comme ça, ça suffit. Vous voyez 1 Corinthiens 11. Alors Paul, il dit... ne soyez pas d'Apollos, de Pierre, etc. Et qu'est-ce qu'il dit? Soyez mes imitateurs. C'est pour ça qu'il y en a qu'on dit, mais il n'est pas gêné, Paul. Franchement, il n'est pas gêné. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous croyez que c'est inspiré? Bien sûr qu'il cite sa vie en exemple. C'est une grâce de pouvoir citer sa vie en exemple, franchement. Vous ne croyez pas? Vous n'aimeriez pas pouvoir dire... imitez-moi. Vous aimeriez pouvoir dire ça à votre femme, à votre mari, à vos enfants? Imitez-moi. Est-ce que vous aimeriez? Ben oui, c'est une bénédiction, franchement, si c'est vrai. Imitez-moi dans ma façon de faire, dans ma façon d'agir, de répondre, etc., etc. C'est une grâce. Mais Paul, bien sûr, mais il ne cherche pas la louange des hommes. Il cherche à faire comprendre aux gens que plus ils... D'ailleurs, il le dit, soyez mes imitateurs... comme je le suis moi-même de Christ. Il est en train de leur dire, mais mes frères et sœurs, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas la sagesse humaine. Plus vous imiterez le Christ, plus vous ressemblerez au Christ, plus vous serez une bénédiction. C'est ça, mes frères. Les chrétiens, ils doivent être une bénédiction pour les autres. Est-ce que ça vous intéresse que Dieu vous dise, mais vous allez passer, on va passer devant lui. Qu'est-ce que Dieu va te dire? Est-ce que vous y pensez à ça? Moi, j'y pense tout le temps. Tout le temps, c'est presque une obsession. Mes frères et sœurs, est-ce que Dieu va te dire, tu sais, sur la terre, tu as occupé la terre inutilement. Est-ce que Dieu risque de dire ça à des gens? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Il y a des gens, ils sont sur la terre, ils ne servent à rien. À rien. Moi, j'ai pas envie d'entendre, Gérard, tu as été sur la terre, tu n'as servi à rien. Vous avez envie d'entendre ça? Ou vous avez envie d'entendre, tu sais, je suis fier de toi. Tu as été une source de bénédiction pour plein de gens. Vous n'avez pas envie d'entendre ça? Et c'est ce qu'on est en train de voir. Et il faut commencer à régler les problèmes. Et pas dire, ouais, mais tu comprends, moi c'est ma personnalité. Moi quand j'ai un truc à dire, je le dis. Ah ouais? Dites-le-moi à moi si vous voulez. Mais quand vous allez passer devant Dieu, vous allez voir qu'il y a d'autres solutions pour bien réagir. Et je crois qu'un chrétien, il cherche à faire en sorte que, comme on l'a chanté, que mes paroles lui soient agréables. Un autre point, pour expliquer cette rivalité, il y a quelque chose que j'ai aimé ce matin en lisant. Regardez, dans 1 Corinthiens, tout ça c'est pour régler le problème des divisions et des disputes et des rivalités. Regardez ce que Paul dit, c'est quand même extraordinaire. S'il était là aujourd'hui, l'apôtre Paul, je pense qu'il y a beaucoup de pasteurs qui prendraient mal. 1 Corinthiens chapitre 2, regardez ce qu'il dit, verset 2. Regardez bien. Quand vous avez été dans des séminaires sur le leadership, des séminaires sur la pensée positive, les séminaires « Soyez forts », les sœurs « Soyez des lionnes ». Il y a une sœur, il y a un frère qui m'a téléphoné, « Monsieur Gou, il y a eu un séminaire pour les sœurs, c'était, il fallait qu'elles deviennent des lionnes. Qu'est-ce que vous en pensez ?» J'ai dit, vous allez voir le résultat dans l'église, il y aura une division dans l'église. « Bon, mais non, monsieur Gou, vous allez voir. » Et c'est ce qui est arrivé. Regardez ce que Paul dit. Mais on entend de ces trucs. Les gens, ils sont incapables de comprendre. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, et il rend témoignage, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Ah oui, c'est pas ce qu'on entend dans les séminaires sur la pensée positive. L'apôtre Paul, le grand homme de Dieu, n'était pas cet adepte de la pensée positive qu'on nous demande d'être aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous demande d'être positif. Le problème, il n'est pas d'être positif. Le problème, c'est d'être obéissant. Positif, mais c'est ridicule. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire d'être positif. Ce qui est important, c'est d'être obéissant. Et Paul, il serait aujourd'hui dans un séminaire de leadership. Il dirait, mais moi j'étais dans un état de crainte, de faiblesse. Est-ce que ça l'empêchait d'être utile? Non. Il avait la crainte de Dieu. Est-ce qu'il craignait les hommes? Est-ce que Paul craignait les hommes? Non, il craignait Dieu. Il n'avait pas peur des hommes. Il avait la crainte de Dieu. La sagesse, ça commence comme ça. Et quand il dit, mais j'étais dans un état de faiblesse, parce qu'on le voit plus loin quand il règle les problèmes, regardez un peu plus loin, chapitre 4, verset 21. C'est pour ça qu'il faut tout lire. Et pas lire un verset au détriment de son contexte. C'est pour ça que j'ai souvent dit que les boîtes à promesses, c'est pas bon du tout. Les gens qui ont une promesse, ah, toutes choses concourent au bien. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand vous lisez toutes choses concourent au bien, point, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça concourt, si vous aimez Dieu, si vous obéissez à Dieu, ça c'est clair, n'importe quelle épreuve, Dieu peut la faire concourir au bien. Et Paul a la crainte de Dieu. Il ne veut pas de la sagesse humaine pour épater les Corinthiens qui étaient des gens sophistiqués. Parce que quand vous étudiez l'histoire de Corinthe, c'était peut-être la ville universitaire la plus développée à l'époque, Corinthe. Et regardez au verset 21 du chapitre 4. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge, c'est-à-dire avec un bâton?
ou avec amour et un esprit de douceur. Voyez bien que l'apôtre Paul n'avait pas peur des hommes. Il avait la crainte de Dieu. Monsieur de Dieu me disait que dimanche matin, pendant qu'il faisait son culte, il a été touché par une parole de Paul Romain, Romain, qui dit « Ayez le mal en horreur ». C'est ce que vous me disiez. Mais c'est ça. C'est ça, dire « Oh, mais ça déplaît à Dieu ». Oui, je suis dans un état de crainte. Ça déplaît à Dieu. Ça, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas y aller. Je ne peux pas le regarder. Parce que ça déplaît à Dieu. Moi, quand je regarde la télé, j'ai toujours la télécommande à la main. Toujours. Et dès que les pubs arrivent, je change. Parce que je crois qu'il faut avoir le mal en horreur. Et Paul est en train d'expliquer à tous ces scribes, à tous ces pharisiens, à tous ces scientifiques, à tous ces pseudo-sages, etc., que tout ce qui est humain, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est d'avoir la crainte de Dieu et bien sûr, d'arriver à être rempli du Saint-Esprit. Et de porter du fruit. Même si j'ai des dons, c'est bien un don. Mais le problème, ce n'est pas tellement le don. Le problème, c'est le fruit. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, j'ai reçu le pastorat. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis pasteur. Ça fait partie des dons hommes. Dans la Bible, il y a les dons spirituels, puis il y a les dons hommes. Les dons hommes, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, ce sont les dons hommes. Je suis pasteur. J'ai reçu un don d'être pasteur. Un don, c'est un service. Hein. C'est pas un truc surnaturel. Mais c'est quoi qui est le plus important? Que je prêche bien ou que je porte du fruit? Mais c'est que je porte du fruit. Il y a plein de gens qui ont des dons et ils vont aller en enfer. C'est écrit ou c'est pas écrit? Il n'y a pas des gens qui mais Seigneur, on a fait des miracles en ton nom. On a prophétisé. Et donc ils avaient reçu un don. Quelqu'un qui prophétise, il a reçu un don. Quelqu'un qui a fait des miracles, il a bien reçu un don. Et vous savez ce que Jésus va leur dire? Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. C'est écrit où? Matthieu, c'est dans cette, le sermon sur la montagne. C'est pour ça que Paul est en train de dire, mais voilà, il y a un témoignage à donner. Le témoignage, ce n'est pas avec de la sagesse et de l'intelligence humaine. Tant mieux si Dieu nous donne de l'intelligence. Tant mieux si Dieu nous donne de la sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on a la crainte de Dieu. On n'est pas là en train de faire du tapage, à dire, moi je suis fort parce que je suis un lion pour Dieu. Écoutez, tout ça c'est du cinéma. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, je pense qu'il rend un bon témoignage. Oui, non? Et il s'applique à rendre un bon témoignage. Quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est évident, on ne peut pas faire autrement que de glorifier Jésus. Quand on est rempli du Saint-Esprit, écoutez bien, parce que quand même, moi, ça m'inquiète, ça. Quand on est rempli du Saint-Esprit, la parole écrite devient la parole vivante. Parce qu'il est quand même écrit que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Et quand vous dites, ouais, c'est écrit, mais tu comprends, on n'est plus au Moyen-Âge. On ne va pas écouter des types qui ont écrit ça il y a 2000 ans. Et suivre un Jésus invisible. Moi, je l'entends, ça. Suivre un Jésus invisible, écouter des gars qui ont écrit il y a 2000 ans ou 3000 ans. Non, mais on est au 21e siècle. Il faut se réveiller. Si vous avez des doutes sur ce que je vous dis, lisez, parce que vous, sur Internet, vous avez tout, les comptes rendus des conventions des protestants, des presbytériens, les discours du pape et tout. Vous pouvez les lire. Et vous verrez que c'est rien ce que je dis à côté de ce qui est la vérité. Est-ce qu'on peut suivre un Seigneur invisible? Est-ce qu'on peut lui faire confiance à ce Seigneur invisible? Est-ce qu'on peut faire confiance aux apôtres et aux prophètes qui ont écrit il y a 2000 ans? Ou est-ce que c'est ridicule de suivre des types, excusez-moi l'expression, qui ont écrit il y a 2000 ans? La Bible dit que c'est ça la sagesse. D'écouter les hommes de Dieu qui ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que les gens d'aujourd'hui, ils se vantent d'être sages et Dieu dit qu'ils sont devenus fous. Et quand Dieu dit que se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, oui, moi je crois qu'il vaut mieux suivre le Seigneur même s'il est invisible. Et je crois qu'il vaut mieux suivre des hommes qui ont enseigné comment garder la piété jusqu'à la fin. Une foi vivante. La parole de Dieu, elle est vivante. Et elle doit provoquer une conviction. L'homme naturel, et c'est pour ça qu'il vous faut réfléchir. Quand vous avez des gens, ça fait 15 ans qu'ils sont chrétiens, ils ne comprennent rien aux choses de Dieu. On va le lire. 1 Corinthiens, on l'a lu tout à l'heure. Mais il faut savoir dans quelle catégorie nous sommes, parce qu'il y a trois catégories en fin de compte. L'homme naturel, verset 14 du chapitre 2. L'homme naturel, il n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Moi, j'ai dit à une jeune fille dernièrement qui vivait avec un gars, et il faudrait que vous compreniez que vous êtes dans le péché. Ah, oh, me dit Monsieur Gau, vous êtes un vieux jeu. Vous ne comprenez pas que Dieu peut changer d'avis. Ah, si vous avez vu ça où? Ah, me dit Monsieur Gau, j'en suis convaincu. Dieu peut changer d'avis. L'homme naturel n'accepte pas les choses de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Au verset chapitre 3, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des enfants charnels. Verset 2, la conséquence, je vous ai donné du lait. Et quand je disais il y a quelques semaines en arrière qu'on va être obligé, je ne parle pas de l'Assemblée, quoique il y en a aussi chez nous, peut-être moins, par la grâce de Dieu, quand je vous disais qu'on va être obligé dans nos assemblées le dimanche matin de faire de l'évangélisation, ça ne vous choque pas ça? Franchement, ça ne vous choque pas, dans les assemblées de Dieu de Pentecôte, de devoir refaire de l'évangélisation parce que les chrétiens ne sont pas convertis. Mes frères et sœurs, il y a des chrétiens qui ne sont pas convertis. Et c'est sûr qu'il faut qu'ils acceptent. Et Paul leur dit, mais c'est malheureux. Vous avez tout, Dieu vous a tout donné, et je suis obligé de vous donner du lait. Donc l'épître aux Corinthiens, c'est du lait. Et ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas le top niveau, croyez-moi. C'est le béaba de l'évangile. Enfin, de l'évangile, de l'édification. À savoir que je dois chercher à faire en sorte que mon comportement change. Oui, la parole de Dieu, elle est vivante. Un chrétien qui lit avec son cœur ouvert, il est convaincu. Un pécheur, il est convaincu de péché. Mais un pécheur, est-ce qu'il peut être convaincu de justice aussi? Oui, un chrétien. Mais c'est la vérité. Alors je le vis, et le comportement change, et l'homme naturel, il s'efface, et l'homme spirituel, il surgit, et il comprend les choses de Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit? Alors il est dit, l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. Alors, la foi, est-ce que c'est tout comprendre? L'homme naturel ne comprend pas. Est-ce que l'homme spirituel, il comprend tout? Est-ce qu'on comprend, c'est-à-dire, est-ce que la foi, c'est comprendre, ou la foi, c'est accepter, tout simplement? Est-ce que vous comprenez tout sur l'enlèvement de l'Église, la parousie, le retour de Jésus? Est-ce que vous comprenez tout? Est-ce que vous le croyez? Oui, bon, ça c'est la foi. La foi, la croyance, la vraie croyance, produit la foi. Et la foi, si Dieu l'a dit, c'est la vérité. Jésus est né de la Vierge Marie par la puissance du Saint-Esprit, tout le monde se moque, même dans les églises. Même au plus haut niveau de certaines églises, on se moque de la conception miraculeuse de la naissance de Jésus-Christ. Mais quelle bénédiction pour nous. Vous le croyez à ça? Vous croyez que c'est vrai que Jésus est Dieu? Vous êtes sûr que Jésus est Dieu? Mais bien sûr, il est le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu qui a tout créé, il est venu dans le sein de Marie. Moi, je le crois. Moi, je ne peux pas vous l'expliquer. Si un gynécologue, il me dit, mais expliquez-moi-le, moi j'ai besoin de ça. Je dis, écoutez, je ne sais rien. Mais je sais que c'est vrai. Vous le croyez vraiment? Il est venu, il est là, et il nous demande de comprendre ces choses. Quelqu'un qui est chrétien, il accepte les choses de Dieu. Elles sont dans la parole de Dieu, il est là, il est soucieux, il lit pas ça. Moi, il y a des gens qui, moi je vous l'ai dit déjà, il y a des gens qui m'ont dit, moi je lis Monsieur Gros parce que j'ai peur que vous me demandiez si j'ai lu la Bible dans la semaine. Je dis, vous inquiétez pas, je vous le redemanderai plus. On ne lit pas parce qu'on a peur du pasteur, pour savoir, le pasteur il n'est pas là pour vous faire peur. Le pasteur il est là pour vous aider. Mes frères et sœurs, c'est sérieux. L'homme spirituel, il juge de tout. C'est écrit, il comprend les choses parce que l'Esprit de Dieu le lui révèle. Il est heureux. Vous n'êtes pas heureux, c'est quoi ça? C'est une lettre. Moi, je me souviens quand Isabelle, elle m'écrivait des petites cartes postales. J'attendais ses lettres. Elle me disait, Gérard, je t'aime. J'attendais ses cartes postales. Elle venait de Bordeaux. J'attendais ses cartes. À l'époque, il n'y avait pas Internet et Google. Il n'y avait rien. On n'aimait pas quand on est amoureux que notre amoureux nous écrive. Mais ça, est-ce que c'est pas une lettre d'amour? Sérieusement. Oh, je l'ai lu la Bible, j'y comprends rien. C'est compliqué. Ah ouais. Mais c'est quand même la parole de Dieu. Et que tout ce qu'on lit, c'est sorti de la bouche de Dieu. Alors il me semble qu'on devrait avoir du respect quand on lit la parole de Dieu. Je comprends pourquoi Paul disait, moi, je m'appuyais pas sur la sagesse et l'intelligence. Parce qu'il avait affaire à des types costauds, croyez-moi. Moi, je m'appuyais sur la crainte de Dieu. Et il a pu dire, soyez mes imitateurs. L'homme spirituel, on l'a lu au verset 16, il a la pensée de Christ. Gloire à Dieu. C'est la chose la plus merveilleuse qu'un chrétien peut avoir sur la terre. Je connais la pensée de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, si vous bichonnez vos cultes personnels, vous aurez la pensée de Dieu. Vous chercherez à vivre ce qu'on a chanté tout à l'heure. Oui, Seigneur, je veux faire ta volonté. Les chrétiens de Corinthe, ils étaient devenus charnels. Et à la place d'être des disciples de Jésus-Christ, c'était devenu des disciples des hommes. Et on ne doit pas devenir le disciple d'un homme. On doit devenir le disciple de Jésus-Christ. Alors on va terminer parce que je vois que le retourne. Donc, chrétien peut perdre le salut. Pas au début. Mais n'oubliez pas qu'un chrétien peut perdre le salut. Ne croyez pas dans la théologie de la sécurité éternelle qui est en train de rentrer même dans nos assemblées. Je vous assure, c'est grave. Même dans nos assemblées, et les pasteurs qui m'écouteront par Internet, ne prêchez jamais la sécurité éternelle. On peut perdre le salut. Alors je termine avec la cerise sur le gâteau, parce que ça en est une. Regardez comment le problème est réglé. Alors, vous pourrez relire toutes ces choses. Il aurait fallu plusieurs réunions pour aborder tous ces aspects de sagesse humaine, de sagesse spirituelle, de la pensée du Seigneur, etc. Mais regardez comment Paul termine avec cette bénédiction, bien sûr. Versets 21, 22 et 23. Ça, c'est vraiment la bénédiction. Mes frères et sœurs, je vous assure, c'est la bénédiction. Donc, il a mis du temps. Parce qu'il en faut parfois du temps pour régler un problème. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21. Que chacun d'eux mette sa gloire dans des hommes. Il aurait pu écrire ça au chapitre 1er et au verset 13. Il écrit que personne ne mette sa gloire dans des hommes, tout est à vous. Vous voyez la différence avec le fait d'être chanté. Regardez bien mes frères. Car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort. Soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Amen. Tout est à vous, même la mort. Parce qu'un chrétien, en vérité, il est rempli d'espérance. Et même la mort, c'est une bénédiction. Vous voyez, si vous ne croyez pas ça, vous faites Dieu menteur. Un chrétien, il est plein d'espérance. Vous entendez? La vie, ça doit être une bénédiction. Quand on est chrétien, c'est une bénédiction. Oui ou non? La vie, c'est une bénédiction. La mort, c'est une bénédiction, parce que s'il avait fallu vivre éternellement sur la terre dans un monde de péché, je pense que là, on aurait des difficultés. Vous vous voyez en train de vivre éternellement sur cette terre? Moi, franchement, je ne signe pas. La vie est une bénédiction. Les choses présentes, bien sûr, tout va mal. Mais est-ce qu'on ne peut pas être une lumière, même une petite bougie, dans ce monde de ténèbres? Est-ce qu'on ne peut pas être une lumière? Moi, je veux être une lumière. Dans la vie que tu m'as donnée, parce que il y a des gens, ah oui, vous n'êtes pas né à la bonne époque. Hein? Ah bon? Et j'ai dit, c'est pas moi qui t'ai choisi. Et on l'entend ça, on me l'a dit. Eh bien, vous n'êtes pas né quand il fallait. Écoutez, moi je crois que Dieu, il nous a donné la vie. C'est lui qui a fixé dans son livre tous les jours qui nous étaient fixés. C'est Dieu qui a décidé, si vous êtes né par exemple, je ne sais pas moi, le 26 septembre 61, c'est Dieu qui l'a choisi. Oui ou non? C'est Dieu qui a choisi. Et Dieu sait très bien quand on mourra. Donc la vie doit être une bénédiction. Les gens et les chrétiens sont, ouais, vous avez vu tout ce qu'on vit, oh, c'est grave, qu'est-ce qu'on va devenir? Eh bien, vous ne le savez pas. Vous ne l'avez pas lu. Que la mort, c'est une bénédiction. Que Dieu nous reprenne. Je ne sais pas comment Dieu peut nous reprendre. Moi, je ne sais pas. Quand je vois comment Dieu a permis que Jean-Baptiste meure, c'est pas la meilleure des morts. Pourtant, ça a été le plus grand homme sur la terre. Est-ce que Jésus a dit que parmi toutes les femmes, parmi tous les hommes qui sont nés de femmes, le plus grand, c'est Jean-Baptiste? Le plus grand homme, il est mort à cause d'un détraqué. Je ne sais pas comment on va mourir. Mais moi, je sais que la mort, c'est une bénédiction. La vie, c'est une bénédiction. Les choses présentes, c'est une bénédiction. Les choses à venir, c'est une bénédiction. Les choses éternelles, c'est une bénédiction. Vous voyez, quand on n'est pas jaloux, quand on n'est pas dans la rivalité, quand on n'est pas dans la dispute, on comprend ces choses. Et on vit bien le présent. Parce que je crois que c'est ça la bénédiction aussi, de bien vivre le présent. Vous voyez, mes frères et sœurs, je vous encourage à lire l'Épître aux Corinthiens. Imaginez-vous qu'il n'y a pas de chapitre et qu'il n'y a pas de verset. C'est une seule lettre. Et vous comprendrez les choses. Mes frères et sœurs, moi je suis inquiet. Je dépose tout ça, je le répète. Mais quand je vois ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, je peux vous dire que nous, on a tout intérêt à s'appliquer, à faire tout pour ressembler à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, mes frères et sœurs. Oui, tout est à vous. Relisez ces choses à la lumière de ce que vous avez entendu ce soir. Et vous verrez combien Dieu, quand on a des problèmes, il ne se moque pas de nous. Même si on est charnel, le Seigneur, il ne nous écrase pas. Le Seigneur, il a toujours une parole pour nous relever. Que son nom soit béni. Fermons les yeux. Remercions-le. À mi-voix, dans notre cœur, peut-être que Dieu vous a parlé ce soir. Peut-être que vous voulez dire, oh, combien j'aimerais qu'un jour que les gens puissent imiter ma foi. Ah, ça c'est sûr que c'est le top niveau. Eh bien, peut-être que ça commence avec un état de crainte et de tremblement devant Dieu. Moi, j'en suis sûr en tous les cas. Et faites attention, mes frères et sœurs, et vous les jeunes, à tous ces séminaires, toutes ces rencontres sur l'importance d'être positif. On n'est pas positif, on est des pécheurs. Le seul moyen d'être bien, c'est que Jésus nous baptise de son esprit. Notre Père, merci pour ta parole. Oui, nous l'avons chantée tout à l'heure, mais nous voulons te le dire du plus profond de notre cœur. Merci pour ta parole. Que deviendrions-nous, Seigneur? Dans quel état serions-nous si tu ne nous avais pas laissé ta merveilleuse parole? Ah, Seigneur, elle est merveilleuse. Ta parole, elle est bénie. Tous tes reproches, tous avertissements, tes prophéties, Seigneur, tes promesses, tout est merveilleux. Oui, nous le croyons que si tu t'appelles le merveilleux, c'est parce que ta parole est merveilleuse. Alors Seigneur, tu nous vois. Tu vois ces mardis en attendant que tu reviennes. Enseigne-nous à avoir un comportement qui te glorifiera. Seigneur, nous ne voulons pas de sagesse humaine, de sagesse philosophique. Nous voulons ta sagesse, celle qui nous permet de te suivre. Toi, oui, notre Dieu invisible. Toi qui nous permet de t'aimer au travers des apôtres qui ont écrit il y a 2000 ans. Merci Seigneur. Garde-nous fidèles. Que ta volonté soit faite et que ton nom soit béni. Merci Seigneur Jésus. Amen.